Nous allons lire le récit de la tentation du Christ selon Luc. Le récit de cette tentation se trouve dans trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, non pas dans Jean. Matthieu relate cet incident en 11 versets, Marc y consacre 2 versets et Luc y consacre 13 versets. Et je vais lire le récit selon l'évangile de Luc. Chapitre 4, premier verset. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tout le royaume du monde et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est tellement puissante et qui nous parle de façon personnelle. Et nous te prions de nous aider à avoir les yeux et un cœur ouvert afin de recevoir ce que tu as à nous dire. Amen. Il y a quelques semaines, mes enfants m'ont dit, « Papa, il faut que tu regardes un prédicateur sur YouTube. » Voilà son nom, tu tapes, et puis tu vas tomber sur ses prédications. Tu vas beaucoup aimer. Donc, j'ai tapé son nom. Il apparaît sur l'écran, dans son église, le dimanche matin, avec je ne sais pas combien de milliers de personnes. Et ce prédicateur commence à parler. Et je me rends compte, il est en train de citer des versets bibliques. Et j'ai compris, il est en train de citer le psaume 1 en entier. Et puis après, il enchaîne avec d'autres choses. Et je me rends compte, il est en train de citer le psaume 16 en entier. Et puis, il continue, sans regarder sa Bible, il cite le psaume 103 en entier. 24 ou 26 versets. Et puis, il continue, et il ne dit pas, je suis en train de citer, mais il cite Romains 5, 1 à 8. Il cite 1 Corinthiens 13 en entier. Et il cite Matthieu 6, 25 à 34, d'un bout à l'autre. Et cerise sur le gâteau, il cite tout le chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains, 39 versets. Sans hésitation, sans réticence, sans note. 25 minutes, ça c'était sa lecture biblique. Et après, il a prêché une demi-heure sur l'importance, il avait 8 points, 8 raisons pour lesquelles on doit apprendre des versets bibliques par cœur. Alors, en l'écoutant, récité par cœur tous ces versets, j'étais scotché. Et je me suis dit, ah ben dis donc, quel bonhomme. John Piper, c'était son nom. Quelle mémoire. Et après avoir admiré ce frère, je me suis dit, mais David, tu en es où, toi? Dans ta connaissance de la parole de Dieu par cœur. Et je me suis dit, bon, je peux me réconforter. Comme vous tous, je connais Jean 3,16. Je connais Jean 11,25. Jésus pleura. C'est un verset biblique. Je connais comme vous, j'espère, 1 Thessaloniciens 5,17. Priez sans cesse. C'est un verset biblique. Le verset précédent, soyez toujours joyeux. C'est des versets bibliques qu'on ne connaît que par cœur. C'est facile. Mais qui connaît un chapitre en entier? L'importance de lire la Bible, c'est vrai, mais l'importance d'apprendre par cœur. Alors, j'ai décidé, avec un frère en Christ qui pourrait être mon fils, d'apprendre des chapitres, des petits chapitres, hein, par cœur. Mais lui, il est plus jeune, plus intelligent, donc il va beaucoup plus vite que moi. Mais j'étais vraiment interpellé par l'importance d'apprendre des versets par cœur. Et en regardant ce texte dans Luc 4, nous voyons que Jésus aussi était convaincu de l'importance de connaître des versets bibliques par cœur. Même des versets bibliques dans des livres un peu obscurs, comme le Deutéronome, c'est quelque part dans l'Ancien Testament. Mais Jésus était convaincu de l'importance d'apprendre des versets bibliques par cœur. Et on va y revenir. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est d'abord regarder quelques mots. Et le premier mot, c'est le premier mot, c'est-à-dire Jésus. Jésus, 100% homme, 100% Dieu, Jésus a été tenté dans le désert. Dans les quatre évangiles, on parle toujours de Jésus. Presque jamais du Christ Jésus ou du Seigneur Jésus, mais c'est Jésus. C'est comme si les évangélistes voulaient mettre l'accent sur son humanité. 100% Dieu, certes, mais Jésus est 100% homme. Tandis que dans les épîtres, par exemple, dans les épîtres de Paul, qui en a écrit 13, il ne parle presque jamais du Fils de Dieu comme Jésus, tout simplement. C'est le Christ Jésus, Jésus de Christ, le Seigneur Jésus, et seulement à deux reprises, Paul parle de Jésus comme Jésus. Une fois dans Romains 3, une fois dans Romains 8. Simplement Jésus. Mais sachez bien que Jésus a été tenté. Deuxième mot, c'est deux mots si on veut, le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint. Jésus a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Marc nous dit, Jésus a été poussé par le Saint-Esprit. Matthieu nous dit, Jésus a été emmené dans le désert par le Saint-Esprit. Et ici, Luc nous dit, il a été conduit par l'Esprit et il a été rempli du Saint-Esprit. L'évangile de Luc accorde plus d'importance que les autres évangiles au rôle du Saint-Esprit dans le ministère de Christ et dans le ministère de Jean-Baptiste. C'est Luc seul qui nous dit que Jean-Baptiste était rempli de l'Esprit même avant sa naissance. Vous vous rendez compte? Le Saint-Esprit était là. Il a rempli Jésus, mais malgré cela, Jésus a été tenté. Vous savez, un chrétien qui se laisse conduire par l'Esprit, qui est rempli de l'Esprit, doit s'attendre à être tenté par le diable. On veut être rempli, on veut être conduit, mais cela ne veut pas dire qu'on ne sera jamais tenté. C'est parfois les chrétiens qui sont remplis, qui sont conduits, qui sont vraiment tentés par le diable, parce qu'il veut nous faire tomber. Le troisième mot, c'est le mot tenté. Il fut tenté. Ce mot tenté en grec signifie deux choses. Soit ça signifie être mis à l'épreuve, ou être éprouvé ou testé, ou alors ça peut signifier incitation, ou être incité ou poussé à faire le mal, à désobéir, être attiré vers le péché. Et c'est dans ce sens-là que Jésus, dans le désert, seul, le diable voulait l'attirer vers le mal. Et le diable savait que si jamais Jésus tombait dans le péché, il ne pourrait pas s'offrir comme sacrifice pour nos péchés. Et nous ne serions pas là aujourd'hui. Jésus a été tenté. Le diable voulait le faire éloigner de la volonté de Dieu. pour le faire tomber dans le péché. Jésus a été tenté. Par qui? Par le diable. Le mot diable signifie celui qui accuse, celui qui divise ou celui qui jette en travers. Il y a quelques mois, un TGV a été déraillé parce que des gens avaient mis un poteau métallique en travers du chemin de fer. Et rien que ça, ça a déraillé un TGV. Et le diable aime bien mettre des choses devant nous pour nous dérailler, pour nous faire tomber, pour nous dévier du chemin. Le diable est mentionné au verset 2, au verset 3, au verset 5, au verset 9, au verset 13. Le diable, j'allais dire, il est presque omniprésent dans ce texte. Le diable était là pour tenter Jésus. Vous savez certainement que l'autre nom du diable, ou un des autres noms, c'est Satan. Et Satan signifie adversaire, ennemi. L'ennemi de Jésus, c'était le diable. L'ennemi de tout chrétien, c'est le diable. Satan, le serpent, le dragon, on peut l'appeler tout ce qu'on veut. Mais il est un ennemi qui nous veut du mal. Soyez-en convaincus, les amis. Jésus a été tenté. Comme nous, à tous égards, sans commettre de péché. Tenté dans le désert. Alors, une question. Est-ce que Jésus a été tenté seulement 3 fois dans le désert? C'est vrai ou c'est faux? Deuxième question. Est-ce que Jésus a été tenté seulement 3 fois pendant toute sa vie? C'est vrai ou c'est faux? Eh bien, si on regarde le verset 13, le diable s'est éloigné jusqu'à une autre occasion. Nous pouvons être sûrs que Jésus était tenté comme nous, à tout point de vue, de toutes les manières possibles, pendant toute sa vie. Et il a su résister. J'aimerais qu'on souligne 2 aspects de la stratégie du diable dans la tentation du Christ et aussi lorsqu'il vient nous tenter. Il y a 2 aspects que j'aimerais souligner. Le premier aspect, c'est que le diable cherche à semer des doutes. Dans la première et la deuxième tentation, il dit « Si jamais tu es vraiment le Fils de Dieu, est-ce que tu es convaincu que tu es le Fils de Dieu ? Si c'est le cas, eh bien, prouve-le. C'est facile. Comme ça. Si jamais tu es le Fils de Dieu. » Le diable a utilisé la même stratégie dans Genèse 3, Adam et Ève. Mais est-ce que Dieu a vraiment dit « Tu ne dois pas toucher à cet arbre » Est-ce que tu es sûr que c'est écrit, que ça a été dit? Le diable aime beaucoup semer des doutes chez les chrétiens. Quand on prie et Dieu semble tarder à répondre à nos prières, le diable veut nous faire douter de sa puissance, de sa bonté, de son amour, de sa fidélité lorsque nous sommes éprouvés. Est-ce que Dieu est vraiment bon? Est-ce que Dieu est vraiment le Tout-Puissant? Il vient semer des doutes dans notre cœur. Ça fait partie de sa stratégie. Mais si nous avons les yeux ouverts, nous allons savoir comment réagir lorsque le diable sème des doutes. Mais une deuxième chose que fait le diable, ici et dans notre vie, il cite des versets bibliques. Dans la troisième tentation, il cite 2 versets, ou plutôt 2 extraits des versets bibliques. Quand on cite des versets, on doit toujours tenir compte du contexte. Mais le diable cite 2 extraits des versets pour essayer de convaincre Jésus, mais la Bible dit, donc tu peux y aller, tu peux y aller. Le diable n'a pas changé de stratégie. Il utilise des gens pour essayer de nous faire tomber dans le mal, parfois en citant des versets bibliques. Ou il utilise des gens pour essayer de nous convaincre qu'on est dans l'erreur parce qu'on a osé dire ou faire quelque chose. Je donne 2 exemples. Il y a quelques années, une sœur en Christ d'un certain âge
est venue me voir et elle était assez secouée, choquée, parce qu'elle avait, comment expliquer ça, elle savait que des lois allaient être votées en France par rapport à certaines questions éthiques, c'est il y a 15 ans. Et elle a décidé d'écrire à son député, qui était ministre à l'époque, en citant des versets bibliques par rapport à ces lois, pour dire la Bible dit que. Alors, ce député, qui connaît très bien la Bible, je l'ai entendu citer plusieurs fois en public, dans les discours, et il a répondu à cette chère sœur en Christ en citant plein de versets bibliques pour ridiculiser cette sœur en Christ. Et elle est venue le voir, tout est défait, parce qu'elle disait, mais qu'est-ce que je peux faire pour répondre à cet homme? Il citait des versets bibliques, David. Un exemple, c'était, il citait que des versets de l'Ancien Testament. Par exemple, il disait, si ma secrétaire est infidèle envers son mari, je dois la lapider si je veux obéir à la Bible. Est-ce que j'ai le droit de la lapider devant le ministère de la Culture? Hein? Ben bien sûr que non. En tout cas, il a cité des versets pour décourager cette sœur. Et je lui ai dit, quand tu écris, il ne faut pas écrire de cette manière-là à un ministre. Autre exemple, il y a quelques années, une jeune fille s'est convertie dans notre église, elle était vraiment ravie, vraiment contente. D'autres personnes dans sa famille étaient touchées. Et puis, elle a rencontré un garçon qui est venu dans notre église et c'était formidable. Ils ont commencé à sortir ensemble et on préparait leur mariage. Et puis, un jour, on a appris par une personne interposée qu'ils avaient, on va dire, décidé de mettre la charrue avant les bœufs. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, venez me voir après. Ou écoutez le message sur Internet. Et puis, bien sûr, ce qui devait arriver arriva, un bébé en route. Donc, les anciens qui les avaient accompagnés continuent à les accompagner, mais ils nous ont dit, mais vous savez, les frères, vous êtes en train de vous juger. La Bible dit, ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Les enfants sont une bénédiction de la part de Dieu. Dieu nous bénit, on a un enfant. On n'a pas besoin de se marier, vous savez. On est au 20e, c'était au 20e siècle à l'époque, on est au 20e siècle. Pourquoi se marier? Est-ce que les mariages sont dans la Bible? Bonne question, hein? Est-ce qu'il y a une cérémonie de mariage dans la Bible? Est-ce qu'on doit passer devant le monsieur le maire selon la Bible? Il fallait des réponses à cette question, mais ce n'est pas mes propos d'aujourd'hui. Mais il nous a cité des versets bibliques pour dire, mais Dieu nous bénit. On a un enfant qui va arriver. Enfin, ils avaient tort. Et plus de 10 ans après, ils se sont déplacés plus de centaines de kilomètres pour venir nous voir, pour dire, pardonnez-nous, on s'est complètement gouré. On vous a critiqué, on a cité des versets bibliques hors contexte, et ils ont demandé pardon aux anciens de l'Église. Et aujourd'hui, ils ont un ministère béni dans une association chrétienne que vous connaissez tous. Ils se sont réconciliés avec leurs frères et avec leur Dieu. Mais ils voulaient citer des versets bibliques hors contexte. Alors, revenons à Luc 4, la stratégie du diable. D'ailleurs, si je peux juste faire une petite publicité, il y a un livre qui est excellent sur la stratégie du diable. Ça s'appelle « Soit diaboliquement vôtre, soit la tactique du diable ». Le livre a été réédité avec un autre nom, écrit par un auteur irlandais qui est mort le même jour et presque à la même heure que John F. Kennedy, 22 novembre, il y a 50 ans et 3 semaines. C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia. Il a écrit ce livre, ça existe toujours aujourd'hui, et il parle de la stratégie, de toute la palette de stratégies de Satan pour faire tomber les chrétiens. Et vous savez, il a beaucoup de succès, malheureusement, Satan. Et il pousse tout ce succès que ce livre, d'ailleurs. Le Seigneur est attaqué. Le diable contre-attaque. Le diable persiste et signe. Il tente parce qu'il veut faire tomber Jésus. Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur Jésus fait? Eh bien, il cite des versets bibliques. Des versets bibliques parce qu'il n'avait pas son Nouveau Testament de poche de Gédéon. Hein? Il n'avait pas des rouleaux de tout l'Ancien Testament. Il avait écrit des versets sur son cerveau et sur son cœur. Et à chaque fois que le diable a attaqué, Jésus a cité des versets. Deutéronome 8, Deutéronome 6, Deutéronome 10, Deutéronome 6. Oh là là, c'était quand la dernière fois que vous avez lu le livre de Deutéronome? Le Seigneur a répondu, le Seigneur a résisté et le Seigneur a remporté la bataille. Il a remporté la bataille, mais pas encore la guerre. Parce que comme je disais, pendant tout son ministère, il serait confronté à des attaques sans cesse. Mais le Seigneur n'a pas succombé. Il a su résister à la tentation. Alors, parlons de nous. Hein? Qu'est-ce que le chrétien doit faire quand il est tenté? Eh bien, on peut prévenir, parce qu'il vaut mieux prévenir que... Bon, vous êtes tous convaincus, c'est très bien. C'est pas un verset biblique, en fait. Mais c'est un principe biblique. Hein? C'est un principe biblique. La première chose que nous devons faire, c'est avoir un cœur ouvert. C'est-à-dire aimer le Seigneur. Le psaume 97, verset 10 nous dit, « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. » C'est noir ou c'est blanc. Aimez le Seigneur, détestez le mal. Et nous devons prier constamment, même si on est chrétien depuis des siècles. Seigneur, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer aujourd'hui. Et aide-moi à haïr le mal. Et si notre cœur est ouvert pour aimer le Seigneur, il nous donne ce secours qui vient de la part du Seigneur, qui sait ce que c'est d'être tenté, et qui peut, et qui veut nous secourir lorsque nous sommes tentés. Avoir un cœur ouvert. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir une Bible ouverte. Bon, je vais redire ce que je disais tout à l'heure. L'importance d'apprendre des versets bibliques par cœur. Alors, vous allez me dire, mais David, je ne suis pas un théologien comme toi. Je ne suis pas un théologien. Je ne suis pas hyper intelligent, David, comme toi. Ben, vous savez bien que je ne suis pas hyper intelligent. Mais on peut apprendre des versets, je ne parle même pas de chapitres, mais de versets bibliques par cœur. Et on peut s'encourager en les récitant les uns aux autres, en toute humilité, en toute simplicité, en toute discrétion. Mais je peux vous dire que si on apprend des choses comme ça, c'est par cœur, et ça veut dire que Dieu les écrit sur notre cœur. Et plus d'une fois, en rendant visite à un chrétien très malade, près de la mort, ou avec la maladie d'Alzheimer, parfois quand je lis un texte biblique avant de prier à la fin de la visite, la personne récite les fins de chaque phrase que je lis. Alors si ma femme me faisait ça chaque fois que je parlais, je me mettrais en colère. Elle ne ferait jamais ça, bien sûr. Mais je pense à une sœur en particulier qui, chaque fois que j'allais chez elle, elle était malade avec la maladie d'Alzheimer, mais elle connaissait par cœur des versets bibliques. Et malgré sa maladie, elle pouvait dire des choses, et moi je disais un texte, et elle complétait la fin de chaque verset. Parce que c'était sur son cœur. Dimitri Kadejouglou, que certains ici ont connu, j'ai eu la joie de l'accompagner dans ces dernières années, et quand on allait le voir et on chantait, il n'arrivait plus à parler à cause de sa maladie. Mais il chantait à tue-tête des cantiques qu'il avait pris par cœur dans sa jeunesse. Il n'arrivait pas à parler, mais il chantait de façon tout à fait compréhensible. Dieu écrit des choses sur notre cœur. Et je vous encourage à apprendre des versets bibliques. Il s'agit d'une décision. Il s'agit d'une discipline. Et ce n'est pas toujours facile d'apprendre. Mais à 56 ans, je suis en train de me remettre à apprendre des choses par cœur. Un cœur ouvert, une Bible ouverte, une bouche ouverte pour prier. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Priez afin de ne pas entrer ou de ne pas tomber dans la tentation. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Mais, la deuxième partie du verset va toujours avec la première partie. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. La première partie de ce verset, séparée de la deuxième partie, il y a un problème. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et là, on doit dire, mais Dieu doit résister. Il va fuir, il va revenir. Mais je dois m'approcher de Dieu pour demander, Seigneur, s'il te plaît, conduis-moi, aide-moi à résister à la tentation. Vous connaissez le dicton, tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux les empêcher d'y faire leur nid. Un dicton que je transforme un peu, tu ne peux pas empêcher le diable de sonner à ta porte, mais tu peux l'empêcher de rentrer dans ta maison ou dans ton cœur. Il va toujours sonner à votre porte. Mais c'est vous qui décidez, est-ce que j'ouvre ou pas? Prions que le Seigneur nous protège et nous garde de la tentation et dans la tentation. Et la dernière chose, nous devons avoir des yeux ouverts. Il existe une race de serpents qui s'appelle les cobras cracheurs asiatiques. On peut aller rendre visite au zoo de la Flèche de Nassau et on va voir cobras cracheurs asiatiques. Et la spécialité ou la spécificité ou la particularité de ce serpent, c'est que si tu t'en approches, il va cracher son venin dans tes yeux. Et, en quelques instants, tu deviendras aveugle. Un serpent qui crache du venin pour nous aveugler. Le diable décrit de plusieurs manières différentes, mais une manière, c'est un serpent. Et nous devons garder nos yeux ouverts, parce que le diable cherche à nous aveugler de tant de manières différentes. Et parfois, il y a des chrétiens qui conduisent bien la voiture, mais qui sont aveugles, parce que le diable les a aveuglés sur tel ou tel point dans la vie chrétienne. Gardons nos yeux ouverts. Le diable peut et veut nous attaquer de tant de manières différentes. Dans son livre « Le Libérateur », que je recommande vivement, Neil Anderson écrit ceci, « Satan est intelligent. Il ne déboule pas comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il se glisse comme un serpent dans l'herbe. Subtilité. Ruse. Les ruses du diable. Pourquoi est-ce que j'ai mis un faucon? Parce que l'animal le plus rapide du monde est le faucon pèlerin. Le faucon pèlerin peut être là-haut quelque part et s'il voit sa proie dans un champ, un mulot, une souris, un petit chat, il peut descendre à la vitesse de 360 km/h. Et avant que le mulot puisse dire « supercalifragilistique, expialidocious », ne me demandez pas de répéter ça, il est pris et c'est la fin des haricots. Bon, les carottes sont cuites. Je mélange les métaphores, c'est un très mauvais exercice, je vous demande pardon. En tout cas, le faucon vient et rapidement, sa proie est prise. Et le diable, quand il va nous tenter, vous allez rarement dire, je crois que je suis en train d'être tenté. Je crois que je suis en train d'être tenté, oui, et je crois que je vais devoir essayer de résister. Alors comment est-ce que je peux résister à la tentation? Je vais aller chercher ma vie. Ça peut aller hyper vite. Même plus vite que 360 km/h. Et puis là, on est par terre. C'est pour ça que je dis, gardons nos yeux ouverts. Ne soyons pas orgueilleux. Essayons de reconnaître les manœuvres, les desseins, les tactiques du diable. J'étais interpellé l'autre jour en lisant que, en apprenant que le verset « ne vous prenez pas pour des sages » se trouve répété 7 fois dans la Bible. Intéressant. « Ne vous prenez pas pour des sages ». Ça correspond au verset « Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber ». Ayons, gardons nos yeux ouverts. Je termine avec ce qui s'est passé il y a un mois. Il y a un mois, il y a eu le marathon de New York, le 4 novembre. Des milliers de participants. Pas mal de Français ont fait le voyage pour y participer. La personne la plus âgée qui a participé s'appelait Joy Johnson. 85 ans. Pas mal. C'était sa 25e participation au marathon de New York. Pendant toute sa vie, elle était professeure d'EPS, d'éducation physique et sportive. Et elle avait une forme olympique, malgré ses 85 printemps. Au kilomètre 32, elle est tombée pendant la course. Elle s'est cognée la tête. Bon, un peu sonnée, ça, on comprend, en 85 ans, elle s'est relevée, elle a continué. Elle a fini les 42 kilomètres de son mètre, bon bref. Elle a fini la course. Pas dans les premiers, mais surtout pas dans les derniers. Elle va à la tente de la Croix-Rouge. Elle explique qu'elle est tombée, un petit bobo. À la Croix-Rouge, on a dit, ah, il faut à tout prix que vous alliez à l'hôpital. Vous savez, il ne faut pas prendre risque avec votre âge, avec la tête. Il faut une radio, il faut une IRM. Allez-y tout de suite à l'hôpital. Elle a répondu, et je le cite plus ou moins texto, ben vous savez, même si j'ai un corps de 85 ans, j'ai un cœur et un corps d'une jeune femme de 40 ans. Donc vous savez, je connais mon corps. J'étais prof pendant des années. Ça fait des années que je cours le marathon. Ne me donnez pas d'ordre. Je suis très bien. Pas besoin de l'hôpital. Ça, c'était le dimanche soir. Lundi matin, elle va participer à une émission à la télé. Lundi midi, elle rentre chez elle. Avant d'aller manger, elle dit, bon, je vais me reposer, je fais la sieste avant le repas. Moi, je fais le contraire. Je fais la sieste avant le repas, elle s'allonge, et elle n'arrive pas pour le repas. Donc, on va dans sa chambre pour la réveiller. Impossible de la réveiller. Elle était morte. Pas besoin d'aller me faire soigner. Pas besoin de voir un toubib. Pas besoin d'une radio. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. 85 ans, c'est jeune, selon elle. Pas besoin d'autre chose. Mais elle est tombée. Et impossible de la relever. Les amis, si nous nous croyons debout, eh bien, ne soyons pas sages à nos propres yeux. Soyons humbles devant le tentateur qui a toute une palette d'armes, de flèches dans son carquois. Il veut nous faire tomber. Il peut nous faire tomber. C'est à nous d'avoir un cœur ouvert, une Bible ouverte, une bouche ouverte et des yeux ouverts pour reconnaître les ruses du diable. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier car Jésus a été tenté, mais il a toujours résisté aux flèches enflammées du malin. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à résister à la tentation, sous quelque forme que ce soit. Seigneur, merci de nous fortifier, de nous aider à nous armer. Aide-nous à avoir un cœur ouvert, une bouche ouverte, une Bible ouverte et des yeux ouverts. Délivre-nous de l'orgueil spirituel, qu'on soit chrétien depuis 50 ans ou depuis une semaine. Seigneur, garde-nous de l'orgueil spirituel et aide-nous à reconnaître les tactiques du diable. Aide-nous à résister au diable. Aide-nous à nous approcher de toi. Et merci, car tu promets de t'approcher de nous. Amen.